Bonjour à ceux que je n'ai pas vu. Je vous propose une lecture dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 7. Chapitre 7 et les 10 premiers versets. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car « je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « pars » et il part, à un autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier, et se tournant vers la foule qui le suivait, dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Jusque-là, la lecture. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous mettre devant toi, parce que c'est vrai que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui es la parole. C'est toi qui es venu nous parler. Seigneur, encore aujourd'hui, que ce message nous touche, me touche, et que nous soyons encore exhortés, comme mon frère l'a dit, enseignés, exhortés, encouragés. Mais en toute chose, qu'à toi revienne toute la gloire. Amen. Comme nous l'a dit la première phrase, Jésus vient de terminer une série de discours sur plusieurs sujets. Communément repris généralement dans le sermon sur la montagne avec plusieurs phrases choc. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à qui te l'emprunte. Aimez vos ennemis, mais faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Jette ton pain à l'assurance de l'eau, souvenez-vous. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugé, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamné. Pardonnez, vous serez pardonné. Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Et pourquoi ? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Tout ce verset théorique que nous connaissons par cœur, mais qu'il est parfois difficile de mettre en pratique. Aimez vos ennemis. Je n'imagine pas non plus ne pas porter plainte à celui qui va emprunter ma voiture sans me la rendre. Hein ? Ça s'appelle un voleur, mais bon. Mais voyons comment Jésus, lui, il va s'en sortir avec ses ennemis, qu'il nous recommande d'aimer. Suivons-le, il entre à Capernaum, qui est décrit en Matthieu comme étant sa ville. Pour ceux qui veulent vérifier, Matthieu 9.1, où selon Marc, il revenait à la maison. Marc 2.1, maison même qui a vu son toit démonté pour faire passer un paralytique par quatre amis. Dans Marc 2.1.12, il est là, à la maison. Le lieu où se déroule l'événement, nous voici donc à Capernaum, avec sa synagogue qui a vu quelques miracles en son sein, et surtout le jour du sabbat, et dont le chef Jaïrus a entendu Jésus prononcer le fameux « Talitha Koumi » sur la fille qui ressuscita. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Capernaum. Mais il n'y avait pas que des Juifs à Capernaum, il y s'y trouvait aussi des Romains. Après, évidemment, une garnison romaine. En effet, depuis la prise de Jérusalem en 63, l'Empire romain avait envahi la terre d'Israël, jusqu'en Galilée, au nord. Et le but des Romains était de s'installer dans le territoire, mais de laisser aussi les coutumes locales continuer. Et il nommait alors des responsables locaux influents comme Hérode, qui gérait un peu le bazar, Et c'était aussi Capernaum, une ville frontière. Et on connaît bien le poste de péage avec Matthieu, qui deviendra un disciple de Jésus, autrement connu sous le nom de Lévi aussi. Et c'est là aussi que résidait la belle-mère de Pierre, qui fut guérie d'une violente fièvre. Et c'est dans ce lieu que Jésus a décidé donc de faire, en quelque sorte, son quartier général, sa maison. De plus, le nom Capernaum signifie « village de la consolation ». Il a bien trouvé, hein ? Ce nom exprime en lui seul, évidemment, les désirs et au bien des besoins. Voilà, j'ai planté le décor, nous allons voir l'acteur principal, outre Jésus, bien sûr. Le personnage principal est un officier romain, littéralement un chef de 100, 100, C-E-N-T, hein, le chiffre 100, 100 hommes. Et l'armée romaine était très bien organisée à l'époque, hein. Il y avait des chefs de 10, des chefs de 100, des cohortes et des centurions, comme notre centurion qui était un commandant bien gradé et bien placé. Il commande et les soldats exécutent. Il en est certainement de même pour son esclave. Il n'a pas le choix. Alors, pour information, un esclave à l'époque de la Rome antique est quelqu'un de non libre, mais juridiquement assimilé à une simple chose. C'est pas une personne, c'est un objet. Et souvent, les personnes réduites à l'esclavage ou maintenues dans des conditions d'esclaves proviennent des peuples conquis. On va pas mettre un Romain esclave. Et il se manifeste souvent par une différence de langue, une différence de religion, voire une différence de couleur de peau, et certainement différent de celle de son maître. Alors cet officier romain est quand même bien différent, vous l'avez remarqué. Il était attaché à un esclave, il était attaché à son esclave, vous voyez la parole de Dieu, qui est malade et qui est prêt de mourir. Quelle valeur a cet homme pour que son maître remue ciel et terre pour sa guérison? Oh, peut-être par intérêt, parce que il valait le coup, cet esclave. Ou alors par besoin, parce qu'il n'en trouvait pas d'autre. Quelle importance pour une simple chose qu'il pouvait remplacer comme il voulait. Il donne énormément d'importance. Centenier ou centurion, suivant les versions, rassemble en lui toutes les conditions essentielles propres à la foi en Dieu. Et Jésus, dans une seule parole qu'il dira, dans cet événement, n'hésitera pas à faire un exemple de foi de ce Romain. Verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et, se tournant vers la foule qui le suivait, lui dit : Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et dans le verset, il nous est dit : Il admira l'officier. Il admire quelqu'un qu'il n'a même pas rencontré parce qu'il n'a pas encore vu. Jésus admire l'officier. C'est quand même étonnant, une chose de la part de Jésus, souvent davantage enclin à la compassion. Là, il admire. Mais quand on est même un soldat romain, un ennemi du peuple de Dieu, un envahisseur de la terre promise, Jésus l'admire. Ben, évidemment. Aimez vos ennemis, qu'il a dit il n'y a pas longtemps. Il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a dit, mais il va au-delà. Il l'admire. Comme s'il faisait un pas de plus avec lui. Au lieu de faire 1 000, il en fait 2. Et au-delà de sa nationalité, de son statut, de son grade, Jésus voit la foi d'un homme. Un homme. Simplement un homme. Pas un soldat romain, un homme. Et il regarde au cœur, plus qu'à l'apparence. Dieu, évidemment, vous le savez, n'a pas de préjugés, n'a pas d'a priori. Il accueille tout le monde sans condition et est prêt à secourir quiconque lui demande de l'aide. Nous devons quand même remarquer que la foi du malade, de l'esclave, de serviteur, n'est pas mentionnée. Pourtant, c'est quand même lui qui est le plus touché avec la maladie. C'est quand même lui qui est là, qui va peut-être mourir. Oh, évidemment, comme il est esclave, peut-être qu'il n'a rien à dire. Peut-être qu'il n'a rien à demander. Il ne l'est peut-être pas permis de faire la moindre démarche vis-à-vis de l'extérieur. Mais ce Romain a entendu parler de Jésus. Il n'a jamais vu, il n'a jamais rencontré. Il a entendu parler de Jésus. Pourtant, Capernaum n'est pas très grande, et même sans Facebook, la renommée de Jésus s'est très vite répandue. Quelle est cette parole dans Luc 4, 36 ? Ils commentent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et dans Luc 4, 40, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies le lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, il les guérit. Évidemment, ce genre d'événement n'est pas discret, il ne passe inaperçu. Et s'il y aurait eu un guérisseur ici à Bénimin, c'est sûr qu'il y aurait du monde. Il aurait été connu et reconnu, peut-être. Mais ce Jésus est la solution pour le serviteur. Centenier, mais est-ce qu'il va me recevoir ? Je suis quand même un Romain. Alors, pour éviter de prendre un refus, comme j'ai autorité, vous avez remarqué, je vais envoyer des messagers, et comme ça, et comme les messagers, c'est des juifs, ils sont plus proches de la religion, ça va mieux passer, quoi. C'est sans compter que Jésus n'est pas bien trop reconnu par les siens, en général, et qu'il était, il avait pas mal de problèmes avec les autorités religieuses. Alors, ces intermédiaires étaient-ils nécessaires ? Est-ce qu'on ne peut pas s'adresser directement à Jésus, le Romain ? Enfin, les anciens des Juifs étaient quand même des hommes du peuple respectés, de la communauté, qui statuaient un tribunal local, une sorte d'échevin comme ça, quoi, qui discutait de tout et du fonctionnement, quoi, de la ville. Ce ne sont donc pas vraiment les bonnes personnes pour aller parler à Jésus. C'est comme si que moi, en tant que protestant, j'allais demander au curé de Bléhigny d'aller trouver le bourgmestre pour m'avoir une place à Bléhigny-Mine dans la cafétéria. Un peu ridicule d'essayer de trouver un intermédiaire. Mais bon, ils arrivent quand même plein de zèle. Ils méritent que tu leur accordes cela car il aime notre nation et c'est lui qui a construit notre synagogue. On se croirait en élection, au cœur des élections, hein. Les Juifs, eux, n'avaient pas de scrupules à accepter un don venant de l'étranger pour construire leur bâtiment religieux. Pour eux, ils considéraient que la sainteté de l'édifice ne résidait pas dans sa construction, mais bien dans le fait qu'il était mis à part. Bref, c'est un grand homme, c'est un bienfaiteur, tu dois faire quelque chose pour lui. Pas vraiment les bons arguments pour une guérison. C'est quand même ignorer qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais uniquement par la grâce. C'est pas parce que tu as construit une synagogue. Et puis de nouveau, ils envoient une nouvelle série d'envoyés, les amis du centenier, mais cette fois avec un message direct. « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, je ne suis pas non plus senti digne d'aller vers en toi en personne. » Il est évident que personne ne peut prétendre être digne de la visite du Seigneur, y compris cet officier. Et là aussi, c'est mal connaître Jésus qu'à cause de mon indignité, je doive utiliser des intermédiaires pour essayer de trouver Jésus. Intermédiaires qui ne sont pas plus dignes que moi. Le centenier lui avait entendu parler de Jésus, mais n'avait pas saisi que malgré son indignité, il pouvait quand même se présenter lui-même à Jésus. Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, Jésus entend bien les déclarations du centenier via ses amis. Il voit au travers une foi énorme. Il n'a toujours pas vu, ils se sont toujours pas rencontrés. Et remarquons quand même qu'il a accepté d'aller chez le centenier. Il n'est pas entré chez lui, ni même ne l'a rencontré, pourtant il a accédé à sa demande. En finalité, le serviteur est guéri. Il est guéri. Mais je me suis un peu arrêté sur les caractéristiques de la foi de ce centenier. La première caractéristique que j'ai sortie, c'est la foi du cœur. C'est au travers des déclarations de l'officier romain que Jésus voit son humilité. Tout en ayant autorité, cet homme reste humble et humain. Il ne fait même pas la démarche pour lui-même, il l'a fait pour son esclave. Quelqu'un d'inférieur à lui. Une chose, rien. Il s'abaisse à son niveau. De plus, il reconnaît en Jésus quelqu'un de bien supérieur à lui, bien qu'il ne l'ait jamais rencontré. Il a juste entendu parler de lui. Sous son armure, il a un cœur. Il a un cœur. Deuxième caractéristique, la foi qui reconnaît l'autorité divine. Le centenier, lui, il avait le sens de l'autorité, il avait l'expérience du commandement et la connaissance de la hiérarchie. Il disait les choses et les choses se faisaient. Il souligne qu'il y a des soldats sous des ordres, mais que lui aussi est soumis au supérieur. Et en disant cela et en relevant son indignité, il soulignait qu'il était prêt à se soumettre à l'autorité divine. Mais qu'est-ce que l'autorité divine ? Par rapport au péché, le péché, c'est l'insoumission à Dieu. C'est ne pas se soumettre. La foi, c'est la soumission à Dieu. La foi se place sous l'autorité divine et est prête à obéir. La foi, c'est une question de confiance et d'obéissance. On va avoir confiance. Si on dit quelque chose et qu'on ne le fait pas, il n'y a pas d'obéissance. Obéir, c'est faire confiance et inversement. Alors vous connaissez peut-être l'histoire de cet homme qui, en pleine nuit, tombe dans un ravin et il est accroché à une branche comme ça et il commence à prier, avec foi évidemment, sachant que le Seigneur va intervenir, va lui donner une solution. Et il dit « Seigneur, et après quelques temps, il lui vient une pensée, « Lâche-toi. » Enfin, je ne vais pas me lâcher quand même, je vais tomber. « Lâche-toi. » Et il ne fait pas. Et puis le jour pointe, le jour arrive, et il se rend compte qu'il avait 30 cm, il y avait une corniche qui aurait pu le retenir. Il aurait pu se lâcher. La foi, oui, mais il faut obéir. Pas toujours évident. Mais elle est là. La foi qui croit, obéit et agit. Et l'autorité du centenier reposait sur une grande armée d'un empire puissant. Mais Jésus est au-dessus de tout nom. Son rang est au-delà de tout, au-delà de toute autorité. Il a autorité sur tout. Et j'aime ce verset qui dit qu'à la croix, il a ridiculisé les autorités. Même dans le ciel, toutes les autorités. Troisième caractéristique, la foi qui reconnaît la puissance de la parole de Dieu. Par un seul mot, l'officier romain se fait produire des choses et des événements. C'est lui qui dit, pars, viens, fais ceci. Et les acteurs se mettent en route, un peu comme sur le tournage d'un film, hein, moteur, et tout se met en route. Et il a ça, quoi. Il a la foi qu'une seule parole de Jésus va mettre la guérison en route. Mais dis un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Il attend une parole adaptée de Jésus. Et le met un peu sur la voie en prononçant ce titre. On a qu'il faut envie de dire à Jésus, mais dis ça, mais fais ça aussi. Alors lui, il dit, ben pars, va. Et dans cette version, va. Jésus dira, va, ta foi t'a sauvé. Pars de cet homme, esprit malade, parole de libération envers la maladie. Le péché, la condamnation, les démons. Fais quelque chose, pars. Et puis, il a dit aussi, viens et vois, viens et suis-moi. Parole d'invitation et d'accueil. Ou fais ceci, fais cela. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie dira-t-elle aux gens qui sont là, à Cana. Et comment ne pas penser à Naaman, vous vous souvenez, Naaman qui a dû aller se tremper 7 fois dans le fleuve, parce qu'il était atteint de la lèpre. Imaginez que vous dites, vous avez un rhume, tu vas 7 fois dans la muse. On ne peut pas imaginer. C'est la foi. On te le dit, fais-le. Même si à certains moments, ça peut paraître ridicule, mais pas pour Dieu. Et notre centenier, lui, est prêt à aller, à venir, à faire tout ce que Jésus lui dira de faire. Il se met pleinement sous l'autorité de Christ. Sa foi est totale. Elle reconnaît l'autorité de la parole de Dieu. Et ceci nous rappelle la question des auditeurs de Pierre à la Pentecôte. Comme frères, que ferons-nous ? Qu'est-ce qu'on peut faire parfois ? Ou le geôlier de Philippe, que faut-il faire pour être sauvé ? Une chose que je vous ai déjà racontée, j'ai fait 800 km pour aller à Vichy, et j'avais dans ma tête, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Alors on passe à la prière, et le prédicateur me dit, t'as plus rien à faire, tout est accompli. Mais Jésus a tout accompli. Alors, vous voyez, des réponses précises ont été données à ces questions, même à moi. Et les personnes y ont obéi, et moi j'ai pris du temps. Alors, un discours, un événement peut déclencher la foi qui peut se mettre en action. Alors, je me pose la question, avons-nous simplement cette foi du cœur? Sommes-nous disposés à nous mettre en action, suivant l'ordre du Seigneur, à aller, à venir ou bien faire ce que la parole nous dit? Et de même que le récit de Matthieu, qui reprend le même récit du centenier dans Matthieu 8, le centenier aborde Jésus et la conversation directe. Donc si vous comparez les deux, là, il y a des intermédiaires, l'autre côté, c'est en direct. Les deux textes, pour moi, ne sont pas opposés parce qu'une parole directe ou via un intermédiaire, c'est toujours la finalité commanditaire qui fonctionne bien. Matthieu conclut comme ceci, puis Jésus dit au centenier, « Va, va qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. En fait, en conclusion, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » « Ouais, mais Seigneur, j'ai une petite foi. Mmh. » Oui, le petit grain de sénévé, la plus petite des semences. La foi du centenier aboutit à ce qu'il voulait. Parce que c'était une foi du cœur. Parce que c'était une foi qui reconnaissait l'autorité divine de Jésus. Parce que c'était une foi qui a reconnu la puissance de la parole de Dieu. Sa foi a été exprimée par la confiance dans ce que disait Jésus. Mais Jésus n'a pas dit grand-chose. Mais dit un mot et mon serviteur sera guéri. Souvent, la foi, elle a besoin de quelque chose de concret. Souvenez-vous, Thomas, si je mets les doigts dans les marques des clous, on n'est pas mieux. Hein. Seigneur, fais-moi un signe. Ou Gédéon qui demande, je ne sais combien de fois, de mettre la toison comme ça, comme ça, comme ça. Ne nous est-il jamais arrivé de dire, ah Seigneur, si tu étais là à côté de moi, oh, fais-moi un signe. Oui. Si je pouvais parler en direct, me jeter à ses pieds, ou toucher juste le bord de son manteau. Posons-nous peut-être cette question, avons-nous la foi du centenier? Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Même pas moi, l'autre. La chose. Juste parce qu'il a entendu parler de Jésus. Il a cru sans voir. Jésus dira à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dis un mot. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. La réponse du Seigneur est venue en relation avec la foi de celui qui l'avait prié, le centenier. Nous ne voyons pas d'une manière directe que le serviteur ait eu la foi. Ça signifie pas non plus qu'il n'avait pas. On ne sait pas. Mais la grande conclusion de ce miracle est de dire que si la foi est tout à fait personnelle, elle est aussi un moyen de bénédiction pour les autres. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Amen. Seigneur, merci parce que ta parole est la vie. Ta parole est guérison. Mais pourquoi parfois nous ne te prenons pas au mot? Oh Seigneur, que nous puissions grandir dans la foi de ce centenier, dans la foi du cœur, dans la foi qui reconnaît pleine autorité, ta pleine autorité. Oh Seigneur, qu'à toi revient toute la gloire. Et peut-être qu'à un certain moment, nous sommes comme les disciples. Seigneur, augmente-nous la foi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen.